table. Resto, radio, loco loco. Mes chers parents, l'autre jour, c'était encore l'été, un matin tôt, comme on en fait encore quand on part léger et vaillant, sans doute avec dans la tête le désir de faire bien. Libre sur mon vélo électrique, en location chez Abicyclette, rue de l'Armellerie à 10, 50 euros par mois, kilométrage illimité, c'est pas comme un plein de gasoil. Entretien assuré par la maison, le plaisir sans effort. C'est ce que dit le slogan. Et là, à fond la caisse, appuyé sur mes pédales, vitesse max 25 km/h de moyenne pour pas en rater une miette. Et surtout pas ma recette de poulet à la chair moula. Car c'est décidé, au menu, ça accompagnera bien une piperade. C'est plein de couleurs. C'est joyeux. Au-dessus du Glandas, le soleil se pointe. Il se traîne, il s'étire, il baille ses premiers rayons quelque part sur le plateau blanchi du Vercors. Là-bas. Et si j'allais plus à l'est, là où le pays est au chaud, du piment et du safran, de la coriandre fraîche et des épices ocres qui font comme du sable. La mer, la Méditerranée, le vent du large. Aurais-je assez de batterie pour voir tout cela? Aurais-je assez de batterie pour vivre toute cette journée qui, à cette heure, n'a pas encore de fin? Il semble que le temps à venir soit infini, sans limite, aussi vaste que l'Orient, aussi lointain que le soleil. Libre. Être libre. De faire quelque chose pour soi, et enfin de le donner, de l'exprimer, de le tendre à l'autre. Être reconnu par l'autre, afin de vivre un vrai échange, une véritable rencontre. Ah, qu'il est bon de vivre, libre. Ce matin-là, alors que j'atteignais l'entrée de Die, l'endroit où les penseurs ont pensé que c'est bien pensé quand les immeubles HLM, les centres commerciaux et les zones artisanales se trouvent réunis dans un même ensemble, en périphérie. Ça limite les transports, ça facilite la vie. À cet instant, j'ai été pris d'un grand éternuement. Alors, personne alentour, j'ai éternué, très fort, sans gêne, sans retenue, avec toute l'énergie d'un gars qui est seul sur son vélo au petit matin frais. Et là, j'ai entendu une voix. Oui, une voix. Très nette, très claire, venant de là-haut. Cette voix a dit « À vos souhaits !» Évidemment, je l'ai pris pour moi et j'ai répondu « Merci. Ce doit être un ange qui me parle. Une fée, peut-être, qui sait. Une fée blanche ou rose, avec des petites ailes de libellule, à peine habillée, presque nue, et jolie avec de longs cheveux blonds bouclés et tout qui lui tombe sur les seins. Afin d'en avoir le cœur net, j'ai levé la tête. Et qu'est-ce que j'ai aperçu? Tout là-haut? Un être qui doit être humain? Elle a le visage d'une femme. Oui, à son balcon, au dernier étage de l'immeuble. Elle est appuyée à la rambarde, comme pour voir passer le temps, et brandit la main en faisant le signe de la victoire. « Victoire !» me dit-elle avec ses doigts. Ou « Courage, camarade !» Ou bien « Je suis avec toi, moi aussi je vais bosser !» Ou encore « Tu veux un mouchoir ?»« Pareil, j'ai la crève !» Mais que pourrais-je souhaiter? surtout qu'elle ne m'accorde qu'un seul vœu. Du travail, de l'argent, l'amour, un voyage en Orient, réussir ma recette de poulet à la chermoula. Non. Ce jour-là, j'ai choisi de vous raconter, à vous, auditeurs de Erdiwa, cette histoire. Parce que je trouve ça bon à entendre quand un humain dit à un autre « Allez, vas-y, c'est bien, continue, ça vaut le coup, je suis avec toi. » Et vous aussi, gardez courage, continuons. Accrochez-vous au guidon. Cocotte, fonce dans le tas, vas-y Bibi, t'es le meilleur. Tu l'auras ton maillot jaune. Si tu veux, change de pignon. Si tu n'en peux plus, prends-le en danseuse. Te retourne pas, ça doit être par là, oui, par là. Non, vas-y, fonce petit, on ne sait plus. Mais vivre libre. Jacques Higelin, La joie de vivre. Aujourd'hui, c'est un ange que je reçois autour de la table, ou une fée. Rassurez-vous, elle est tout à fait bien vêtue, surtout par ce froid. Elle n'a pas de longs cheveux blonds et bouclés, avec un drôle de chapeau étoilé, mais un sourire qui aime la vie, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Dumas. Elle est chiropracticienne, accompagnatrice au mieux-être, coach, comme on dit aux États-Unis. Parce que oui, après un bac bio et sciences nat à Paris, Stéphanie s'est formée en Californie avant d'ouvrir un cabinet ADI, rue de l'Armellerie. Depuis quelques mois, elle donne un certain nombre de conférences, le cerveau mode d'emploi, au Loco Loco, mais aussi à Cré, à l'occasion desquelles Stéphanie nous livre un message qu'il est bon d'entendre et que nous allons écouter une nouvelle fois sur RDIWA. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Vincent.
La première question qu'il semble être importante de poser, c'est quoi la chiropractie ?
C'est une science, un art et une philosophie. Mais de ça, je retiens surtout la philosophie.
Et cette philosophie ?
La notion principale que je retiens, c'est que l'intelligence universelle qui nous a créés, c'est elle qui nous guérit. Et l'autre notion, c'est que chaque symptôme est une demande de changement.
Comment es-tu devenue chiropracticienne ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études, à faire ce voyage aux États-Unis pour t'enrichir de toutes ces connaissances ?
Alors, chiro, ça veut dire main, pratique avec les mains. Et moi, depuis que je suis toute petite, j'ai cette vision que je voulais travailler avec les gens. Je voulais bien être médecin, mais je ne me voyais pas être derrière un bureau. Et j'avais envie de travailler avec mes mains. Et vers l'âge de 16 ans, 17 ans, je m'étais dit, finalement, je serai potière. Moi, je mets mes mains dans la terre, je me ferai plaisir. Et puis, c'est l'époque où on commençait quand même à parler d'ostéopathie. Donc voilà, je m'étais dit, soit je suis potière, soit je suis ostéopathe. Et puis, ma vie a fait que finalement, j'ai rencontré un chiropracteur. Parce que ma mère avait besoin d'un chiropracteur. Et puis je suis rentrée dans une école de chiro à Paris. Voilà. Et aux États-Unis 2 ans après.
Et après, tu es partie aux États-Unis. Alors, pourquoi les États-Unis ?
Déjà, quand j'ai commencé les études de chiro, j'avais en tête de partir aux États-Unis puisque le chiro avec qui j'avais parlé n'envisageait même pas de faire des études en France. Et puis au bout de 2 ans à Paris, je me suis dit, je peux terminer en France, c'est quand même assez pratique. Mais toute la dimension philosophique, elle n'y était pas. Et puis, je ne sais pas si tu veux que je raconte une histoire.
Si. Si, c'est ça.
Et puis, en cours de deuxième année, j'étais dans le réfectoire de cette école. Et en haut des escaliers, je vois une jeune femme qui surplombait tout le monde, et puis j'avais l'impression que personne la voyait, et je la regarde et je me suis dit en moi-même, mais c'est un ange. Et j'étais vraiment étonnée que personne aille la voir, et donc finalement je me suis levée, je suis allée la voir, et c'était une jeune chiro qui rentrait des États-Unis, qui venait de terminer ses études et qui passait par Paris, et s'est dit je vais aller voir l'école française. Et j'ai fait sécher les cours et j'ai passé l'après-midi avec elle. Et là, j'ai vraiment senti que si je restais à Paris, il me manquerait la dimension philosophique de la chiro. Et elle m'a aussi permis de connaître des techniques beaucoup plus énergétiques que ce qu'on pouvait nous enseigner en France. Et voilà, et en quelques mois, je me suis remise sur le premier chemin. La première idée que j'avais, c'était de partir. Et de toute façon, je pense que quelque chose en moi aussi m'attirait sur le fait d'aller à l'étranger, de parler une autre langue. J'avais ça aussi en moi depuis toute petite.
Et aux États-Unis, dans cette université, tu as fait une autre rencontre qui a été déterminante pour toi, une, une dame où tu te dis ah oui c'est elle que je veux être, une vieille dame.
Oui. Donc tous les vendredis matins, on était 400 étudiants peut-être dans l'université. On était tous regroupés dans une grande salle. Ils appelaient ça philosophie, justement. Ils faisaient venir un speaker à l'américaine. Donc, il traversait la salle et tous, on l'applaudissait. Et puis, il se mettait à parler pendant une heure et demie, peut-être deux heures, pour nous motiver. C'était une forme de motivation. Alors, ça marchait plus ou moins. Alors, nous, on était une vingtaine de Français et assez critiques. Et moi, j'avais plutôt tendance à les critiquer. Je trouvais ça un petit peu trop gros. Sauf quand il y avait des petites dames comme ça. Et donc j'ai juste en tête qu'il y en avait plusieurs. Ils faisaient venir de temps en temps des vieilles dames de 80, même des fois plus, qui traversaient la salle tout lentement comme ça. Puis elles venaient s'installer devant ces 400 étudiants. Et puis avec leur petite voix tremblante, elles nous racontaient leur vie de chiropracteurs. Des femmes, des fois, qui avaient fait de la prison pour pouvoir pratiquer, parce que à l'époque, c'était pas du tout reconnu et c'était même tout à fait illégal. Elles faisaient de la prison et en sortant de la prison, elles recommençaient. Et elles étaient enthousiasmantes. Et à ce moment-là, je me souviens avoir senti au plus profond de moi-même quelque chose qui me disait « C'est ça que tu feras quand tu seras à la retraite. » J'ai senti que c'était le plus beau, la plus belle retraite du monde, le plus beau métier du monde, de pouvoir faire pétiller les yeux des gens par leur expérience, leur sagesse. Et ouais, c'est vrai que ça m'a porté. Et ça m'a peut-être permis, ou ça m'a sûrement permis de commencer à faire des conférences aujourd'hui, même si je n'ai pas 80.
Alors justement, tu as un cabinet rue de l'Armellerie où tu reçois les personnes individuellement, mais tu proposes aussi donc des conférences. Et tu as ce qui motive, je crois, ces conférences, c'est que tu as envie de vulgariser des connaissances que tu as et de vulgariser ces connaissances et de nous aider à comprendre comment le cerveau et le corps humain fonctionnent pour qu'on puisse agir de nous-mêmes sur notre santé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Stéphanie, ce qui se passe à l'occasion de ces conférences que tu donnes?
Alors, j'ai décidé de faire des conférences parce que je passais de plus en plus de temps avec mes patients en individuel à leur expliquer l'importance du système nerveux sur notre vie, sur notre santé bien sûr, et aussi sur notre vie. Et puis, donc c'est comme si je me passionnais sur la neurophysiologie, mais du coup ça devenait trop d'informations pour faire de l'individuel. Donc comme ça me trottait dans la tête quand même ces notions de conférence, j'y suis allée doucement. J'ai commencé à proposer à des patients à moi de se regrouper, peut-être à 3-4, et puis rapidement à 10, puis 17. 17, ça rentrait plus dans mon cabinet. Où j'ai, au lieu d'expliquer à une personne, j'expliquais à ces 17 personnes l'importance de notre cerveau sur notre vie. Et j'arrivais assez facilement à le faire parce que je m'étais tellement entraînée à le faire individuellement. Et en individuel, j'ai tellement répété. Et j'ai trouvé les mots et les phrases et les expressions et les images qui permettaient une compréhension simple. Voilà. Donc, quand j'ai fait mes conférences, j'ai utilisé la même formule. C'est-à-dire que je faisais une conférence devant 17 personnes comme si j'expliquais à une personne. Ce qui m'a permis de faire une transition facile, en tous les cas pour moi, assez facile pour que j'accepte. J'accepte ça parce que c'est quand même encore et toujours, et même là aujourd'hui d'être devant un micro, c'est un challenge pour moi d'expliquer même ce que j'ai compris et assez intégré maintenant, je crois.
Lors de ta conférence, tu nous montres un certain nombre de dessins que tu as faits, notamment le dessin d'un cerveau pour qu'on comprenne bien un peu les différentes parties de ce cerveau et afin qu'on puisse saisir au final l'importance de la pensée sur notre système nerveux et que ces pensées ont une incidence réelle sur notre physiologie. Ouais. Est-ce que tu veux bien, Stéphanie, en dire quelques mots de ça, voilà, de notre fonctionnement.
Donc le premier message que je souhaite faire passer, c'est que on est deux là-dedans. On est un cerveau humain et un cerveau animal. Le cerveau humain, c'est celui qui est sous notre front. C'est le néocortex, c'est ces deux hémisphères, donc sous notre front, devant. C'est le cerveau qui pense. C'est celui qui cogite, c'est celui qui se souvient du passé, c'est celui qui peut projeter dans le futur. Et puis derrière, donc encore une fois pour simplifier, on a un cerveau animal. Le cerveau animal, c'est celui qui est. C'est celui qui nous permet de contrôler tous nos systèmes nerveux autonomes. Notre rythme cardiaque, notre pression sanguine, notre digestion, notre système immunitaire, tous les muscles de l'équilibre, etc. Et nos deux cerveaux, et non, j'aurais reformulé ça, on est baigné dans nos pensées. Ce cerveau animal, il écoute toutes nos pensées. Et il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire de nos pensées. Ce système nerveux animal, il n'entend pas le pas, il n'entend pas le plus. Ce système nerveux animal, il ne sait pas faire la différence entre le passé et le futur. Lui, il est, et maintenant. S'il entend une pensée menaçante, il croit que c'est maintenant. Et du coup, il nous passe en survie. Parce que ce système nerveux animal, il fonctionne comme un interrupteur sur deux modes. Soit il est au repos, soit il est en survie. Quand il est menacé, clac, il passe en survie. Et pour lui, ça veut dire je pars en courant ou je combats. Rappelez-vous, il ne sait pas faire la différence entre une situation réelle où je vais me faire écraser par un bus, une situation réelle menaçante, et à ce moment-là, effectivement, il faut que je parte en courant. Il ne sait pas faire la différence entre une situation réelle et une situation pensée, imaginée. Si la situation pensée est menaçante, il va nous passer en survie. Comme si on devait partir en courant ou combattre. Ça veut dire qu'il va préparer le corps physiologiquement à la course. Il va serrer les fesses, il va serrer le dos, il va augmenter le rythme cardiaque, la pression sanguine. C'est plus le moment de digérer, c'est plus le moment de combattre les virus, c'est plus le moment de dormir. Non, c'est plus le moment, je vais partir en courant. Ou de la même façon, on pourrait dire, c'est pas le moment, je vais combattre. Combattre, c'est me préparer au combat, à recevoir des coups, à donner des coups. Je monte le trapèze dans les oreilles parce que je protège mon cou, on risque de me couper la tête. Je peux être tranquillement sur mon canapé, juste à repenser à une situation, une dispute d'il y a 2 semaines. Mon système nerveux animal croit que c'est maintenant la dispute. Et à ce moment-là, il veut partir en courant. Dans ces conditions, si on a des pensées menaçantes récurrentes, on passe rarement en mode de réparation, en mode de repos. On est presque tout le temps en survie. On appelle ça sympathique dominant, en sympathique dominant. Et à ce moment-là, on ne se répare pas. Le système nerveux est en survie, n'est pas en repos, on n'est pas en réparation. On peut s'endormir, par exemple, d'épuisement, mais s'endormir d'un sommeil non réparateur. Et puis on se réveille au milieu de la nuit, on n'a plus du tout sommeil. Et là, on commence à cogiter. Et qu'est-ce qu'on fait en général ? On recommence à se menacer. Et du coup, on ne peut plus s'endormir.
Alors, si je comprends bien, suffirait-il d'avoir de pensées positives pour que notre corps aille mieux ?
Suffirait-il ?
Tu invites ton l'auditoire à autour de la question du rêve et du jeu. Ça revient très souvent au moment de ta conférence. Et tu fais aussi beaucoup référence au monde de l'enfance qui, quand on est tout petit, effectivement, on peut tout à fait s'imaginer des choses agréables. Tu parles de l'enfant qui s'imagine au volant d'une voiture et qui se croit réellement dans une voiture. Personne ne lui dit, et surtout pas lui, ce n'est pas vrai. Et il est réellement au volant de cette voiture et avec du plaisir. Donc tu nous invites par un certain nombre de aussi d'exercices et une réflexion autour de ça à penser notre vie, à rêver notre vie autrement que de manière négative ou violente.
Tu veux que j'illustre ça ?
Je veux bien.
Non. Donc là, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ce que j'appelle le cercle vicieux physiologique. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux entre notre corps, qui commence à aller mal parce qu'on n'est pas en réparation, donc on s'épuise. Et si on a des symptômes dans notre corps, on commence à aller mal dans notre tête. C'est-à-dire, je suis fatiguée, je ne sais pas si je vais pouvoir travailler, j'en peux plus, j'ai mal au ventre, ou l'enfant, j'ai mal au ventre, je ne veux pas aller à l'école, etc. Et puis comme il a mal au ventre, il veut encore moins aller à l'école, etc. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Et j'illustre ça parce que je pense ce qui se passe dans notre société. Alors, j'espère que je vais vexer personne, mais je crois que dans notre société, on laisse nos enfants rêver jusqu'à l'âge de 5-6 ans. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, si je prends l'exemple du petit garçon qui est au volant d'une Ferrari, par exemple, d'une belle voiture, le petit garçon, il y est. C'est-à-dire qu'il va sentir entre ses doigts le volant de sa voiture. Il va se voir dans la voiture. Il va se voir de l'extérieur dans cette voiture. Il va sentir l'odeur du cuir. Il va sentir le vent sur ses joues. Il va entendre le moteur ronfler sous le capot. Et tous ces sens le font vibrer sur une émotion. Et chez certains petits garçons, ça va être la fierté. On peut le voir dans leur posture, ils sont fiers, ils sont contents. Et d'autres petits garçons, va être hilar d'être au volant de cette voiture. À aucun moment, l'enfant ne va se poser la question « comment je vais me payer cette Ferrari ?» Et là, dans cet état-là, il est en plein épanouissement. Donc moi, j'ai envie de dire que le sourire qu'il a sur son visage, toutes ses cellules l'ont. Il rayonne. Ce qui est très dommage, c'est qu'à partir de 5-6 ans, on va commencer à dire au petit enfant, maintenant, stop. Arrête de rêver. T'es assez grand. Peut-être même on lui propose d'être derrière un petit bureau. Si tu veux une belle voiture, il faut. Et voilà comment. Et à mon avis, à ce moment-là, on fait s'écrouler la notion de rêve et d'imaginaire qui est, à mon avis, notre outil de création.
Et d'épanouissement. Et de plaisir.
Oui.
Et de bonne santé.
Oui. Jusqu'à présent, on n'a parlé que du côté physiologique. Donc oui, de bonne santé. Si le petit garçon, effectivement, il croit à ça, mince, j'ai plus le droit de rêver si je vois pas comment c'est possible, il peut commencer à vibrer sur du doute. Et alors là, on n'est pas rentré dans ce domaine-là, mais j'y vais.
Bien sûr.
S'il commence à vibrer sur du doute, la vibration qu'il émet, qui est sur l'émotion, sur la tonalité de l'émotion sur laquelle il est, elle va lui revenir à vivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est l'autre cercle vicieux que j'illustre sur mes petits dessins, mais dont on n'a pas encore parlé. Je ne sais pas si tu veux que...
On parle absolument de ce que tu veux, et tout est à entendre, tout est intéressant. Mmh. Ce que je trouve assez fabuleux lors de tes conférences, et j'entends beaucoup de gens depuis que tu viens aux locaux ou de les conférences que tu as fait à Cré, j'entends beaucoup de gens me dire: ah, j'ai entendu Stéphanie Dumas, tu l'as vu, est-ce que la prochaine fois il faut que j'y sois, quand est-ce qu'elle revient? Enfin, en tous les cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie nécessité de comprendre des choses, une vraie nécessité de comprendre le fonctionnement, de comprendre son propre fonctionnement et sans doute de changer les choses, parce qu'on peut évidemment les uns et les autres souffrir de difficultés, de maux, et qu'on est dans une quête de changement. Oui. Et que tu... Justement, en invitant les uns et les autres au jeu, alors on fait référence à l'enfant, et tu l'illustres et tu l'expliques, voilà, comment ça se passe, tu nous mets sur la voie du changement et sans doute du mieux-être. Mm. Et donc, évidemment, je trouve ça tout à fait fascinant. Mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu puisses, comme tu le fais, en parler. Ouais.
Well, moi, je suis passionnée. Quand tu le racontes, là, mais moi, ça me fait du bien. Donc, je comprends que ça puisse faire du bien à tout le monde. C'est pour ça que je me pousse, je me donne des coups de pied aux fesses pour aller faire ces conférences, parce qu'on en a tous besoin. On est tous secrètement dans l'envie de changement, mais on n'a pas les outils. Et par la compréhension du cerveau, ou une compréhension que je peux pas qualifier d'intense ou de profonde, hein. C'est une compréhension assez succincte, hein, du cerveau. Déjà, je trouve que ça donne des outils. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire passer le message. Alors, effectivement, l'idée principale, c'est quand même de changer. Et ce que j'ai compris, c'est que ça pouvait s'apprendre. Apprendre à changer. Est-ce que je développe ?
Bien sûr, Stéphanie. c'est tout ça, c'est passionnant.
Alors, apprendre, c'est déjà... Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ? Apprendre, c'est 4 étapes. C'est premièrement l'étape de l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, je ne sais pas que je ne sais pas. C'est comme si ça me passait au-dessus de la tête. C'est avant l'apprentissage. C'est le petit enfant qui ne sait pas lasser ses chaussures. L'étape suivante, c'est l'incompétence consciente. Je sais que je ne sais pas. C'est le petit enfant qui sait qu'il ne sait pas lasser ses chaussures et qu'il doit aller voir ses parents. Pour continuer dans l'apprentissage, l'étape suivante, c'est la compétence consciente. Je sais que je sais. C'est le petit enfant qui sait lasser ses chaussures, mais c'est difficile. Il faut prendre le lacet, le tenir entre les deux doigts, tourner autour avec l'autre lacet, passer dans le trou. Ça marche pas, mais je sais que je sais et je recommence. L'apprentissage, il est acquis que dans la 4e étape, c'est la compétence inconsciente. C'est je ne sais même plus que je sais. C'est toi et moi, on est devenus la sœur de chaussures. C'est intégré, c'est un réflexe. Ces 4 étapes, on peut les transposer dans le cerveau. Alors, c'est plus facile quand on peut illustrer, quand on peut voir, mais je vais essayer. La toute première étape, je ne sais pas que je ne sais pas, c'est ça me passe au-dessus de la tête, c'est au-dessus de mon cerveau. La deuxième étape, je sais que je ne sais pas, c'est dans mon néocortex. La troisième étape, je sais que je sais, mais c'est difficile, c'est l'expérience. Et ça, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau mammifère, c'est le cerveau émotionnel, c'est le cerveau chimique, qui est entre nos deux oreilles. Et la dernière étape, je ne sais même plus que je sais, c'est dans le cerveau reptilien, celui qui est derrière. C'est le cervelet, c'est acquis, c'est inné. Alors là, vous avez peut-être remarqué qu'on a trois cerveaux, alors que tout à l'heure on parlait de deux cerveaux. C'est parce que tout à l'heure je parlais du cerveau animal, pour simplifier. Et là, j'ai divisé le cerveau animal en cerveau mammifère et reptilien. Alors, est-ce qu'on avance là ?
On avance, et ce que je note, c'est que l'intérêt de l'apprentissage, c'est qu'on est, même adulte, encore capable d'apprendre, et que c'est en apprenant qu'on pourra, se sentir mieux être,
changer
et...
Du coup, ça m'a permis de retrouver le fil. L'idée qu'on n'a plus en tant qu'adulte, c'est de nouveau penser avant de faire. Parce que l'enfant, comme il ne peut pas faire, d'abord, il est dans son néocortex. D'abord, il pense, d'abord il observe, d'abord il rêve, il s'inspire, il s'identifie, il joue. Et ça, ça se passe que dans le néocortex. Et dans ce néocortex, il crée des connexions neuronales. Nous, en tant qu'adultes, on veut être différent parce qu'on a compris qu'on avait une responsabilité individuelle par rapport à ce changement. Donc on a compris que si on voulait du changement de l'extérieur, ça devait d'abord venir de nous. Mais du coup, on croit qu'il faut faire différemment. Et faire différemment, c'est déjà dans l'expérience, c'est déjà dans le cerveau limbique. On a raté une étape dans l'apprentissage. On a raté l'étape de « je sais que je ne sais pas ». Et du coup... si je sais que je ne sais pas, je commence à observer, je commence à imaginer, je commence à m'inspirer, je commence à rêver. Mais ça, on nous a saboté cette étape-là parce qu'on nous a dit « arrête de rêver ». Et il faut, et voilà comment. C'est cette étape-là qui est indispensable pour apprendre à être la nouvelle personne que l'on veut être.
Lors de ces conférences, tu théâtralises ton discours. Il y a quelque chose du clown dans ta manière de parler du fonctionnement du cerveau humain. Et je crois que ce n'est pas anodin et que c'est tout à fait voulu. Parce que je crois que tu cherches à créer aussi l'émotion. Et parce qu'il y a de l'émotion... on pourra entendre, retenir et apprendre mieux.
Alors, ça c'est parce que j'ai des bagages de théâtre d'impro. Je me suis régalée à faire de l'impro pendant 5 ans avec Alain Curté, que j'embrasse. Et aussi une année de clown avec Mathilde à Oust. Alors, je crois que j'ai sorti mon clown ou cette forme de scène parce que quand je fais des conférences, je n'ai pas de retour direct comme je l'ai avec un patient. Quand j'ai un patient en face de moi, je vois ses expressions, je vois s'il fronce les sourcils, je vois si son visage s'éclaire, je vois où il en est de sa compréhension. Et quand je suis devant 20, 30, 40 personnes, là, je suis un peu perdue et je n'ai pas les retours directs de mon public, sauf quand il rit. Et ça fait tellement du bien d'avoir des retours que si j'arrive à faire rire, ça me fait du bien aussi. Ça m'encourage. Et donc voilà, j'ai osé un petit peu sortir ce clown, d'autant que les premières conférences, bah, j'étais avec des gens que je connaissais assez bien, donc j'étais suffisamment à l'aise. Mais effectivement aussi, parce qu'il va y avoir une émotion, le cerveau va retenir. C'est flagrant. Si on sort d'une conférence ou même d'un film ou d'un spectacle, les passages qu'on a retenus, c'est les passages qui nous ont émus, les passages qui nous ont fait rire, les passages où on a été touchés. Et donc, c'est sûr que c'est chouette de pouvoir passer une émotion pour permettre de retenir des choses. Donc je commence la conférence aussi en étant très stressée et j'ai tout le temps le trac. Et je partage mon trac avec le public. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de l'empathie. Et du coup, ils vont retenir ça. Et très souvent, on va me dire j'ai bien aimé le fait que tu exprimes ça, que tu sois toi-même là-dedans. Et puis effectivement, les moments où c'est drôle parce que je n'ai pas de rétroprojecteur, par exemple. Donc je scénarise les cellules, les neurones ou les hormones. Mais voilà, maintenant ça fait partie du jeu. Je pense que je vais le garder.
L'auditeur, enfin, en t'écoutant, je me dis que tu nous montres un peu, d'une certaine manière, tu nous parles d'une certaine manière de ce que c'est la liberté, peut-être de ce que c'est aussi le bonheur, la liberté d'apprendre, la liberté de grandir, de changer et d'acquérir cette sensation, cette idée du bonheur. Est-ce que tu as une...
Ben, ça me fait plaisir que tu me dises ça déjà. J'ai envie de partager les choses que j'ai expérimentées. Et puis j'ai de plus en plus de retours avec mes patients. Et puis maintenant, il y a des ateliers depuis septembre. Où du coup j'ai des retours aussi, des gens qui commencent à changer, qui commencent à apprendre, à intégrer. Et puis j'ai la chance aussi de vivre ce que j'enseigne, c'est-à-dire que je l'expérimente et puis que ça marche pour moi. Alors quand ça marche pour moi, je récidive, et quand je récidive, ça marche. Et quand ça marche, j'ai envie d'hurler que ça marche. Et puis on est dans une société qui a vraiment besoin de changement, et comme le dit Pierre Rabhi aussi, qui m'a pas mal influencée parce que mes enfants sont allés à l'école du Colibri aux Amanins. Voilà, chacun fait sa part pour le changement, et que j'ai compris des choses, que je sais expliquer, donc j'ai juste envie de partager, envie de le dire, envie d'expliquer aussi que c'est simple finalement, que ça peut être simple. Voilà, mais c'est vrai que je me sens plutôt bien et heureuse, donc voilà, j'ai envie de le partager.
Et pour finir, on va écouter une musique de ton choix, mm-hmm. et on va partager avec toi un moment d'émotion. Est-ce que tu veux bien nous présenter l'artiste et le morceau qu'on va
écouter ? C'est Yoon Sun-na, qui est coréenne, qui était au Jazz Festival de Cray en 2010 et que j'ai eu la chance d'entendre live. Et c'était très beau. Voilà, juste parce que je trouve que c'est très beau. Par contre, je ne sais pas le titre.
Ben écoute, on le dira à la fin de l'émission. Voilà, on l'écoute tout de suite. Merci Stéphanie.
Avec plaisir, merci.
Et à très très bientôt.
À bientôt.
Ouais.
Edna Million in a drop dead suit, Dutch pink on a downtown train, $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain, 60 men in the dead man's chest, and I've been drinking from a broken cup, 2 pairs of pants and a mohair fist. I'm full of bourbon, I can't stand up. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children. Hey little bird, fly away home, your house is on fire, children are alone. She flipped broke a bottle on Morgan's head, and I'm stepping on the devil's tail, across the stripes of a full moon's head, and through the bars of a Cuban jail. Black lip fingers on a purple knife, flamingo drinking from a cocktail glass, I'm on the lawn with someone else's wife. Admire the view from up on top of the mast. Hey, little bird, fly away home. The house is on fire, children are alone. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are alone. Makes it dark inside. Edna Million in a drop-dead suit, Dutch pink in a downtown train, $2 pistol but the gun won't shoot. I'm in the corner on a pouring rain. Hey little bird, fly away home, my house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, my house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home, house is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone. Hey little bird, fly away home. House is on fire, children are alone.
Alors, évidemment, chers auditeurs de RDVoix et chère Stéphanie Dumas, je vais maintenant vous confier la recette du poulet à la chermoula, depuis le temps qu'on en parle. Mais attention, ne le répétez à personne, c'est un secret que vous garderez. C'est pas sorcier, il suffit d'avoir envie de voyager et d'aimer la vie, et le poulet bien sûr. Encore que, il n'y a pas que le poulet qui peut être à la chermoula. Le poisson, la viande, des légumes, tout ce qui vous passe par la main. Votre chat, votre voisin. La chermoula est une marinade d'origine orientale, marocaine plus précisément. C'est un mélange, un ensemble d'herbes et d'épices. C'est facile et tellement beau. Écoutez bien. commencez par couper vos blancs de poulet en morceaux. Disposez-les dans un plat qui ira au four. Puis, ciselez un peu de coriandre et de persil, quelques gousses d'ail. Ne confondez pas avec les têtes d'ail. Si cela vous tente, mélangez avec les doigts le poulet et les herbes. Cela vous obligera à vous laver les mains à chaque étape de la préparation parce que sinon, on en met partout. Sur les poignées de frigo, sur les robinets des éviers, sur les pots d'épices, dans les cheveux, je connais le problème. Ensuite, ajoutez quelques touches de couleur. Selon la quantité de poulet, une ou deux cuillères à café de paprika doux, du cumin et du curcuma. Une pointe de piment si vous aimez la cuisine bien relevée. C'est l'instant de magie. C'est l'instant des poètes. Du sel, du poivre, un peu, mais pas trop. Enfin, arrosez généreusement de jus de citron et d'huile d'olive. Mélangez bien avec les mains, avec les pieds, avec le nez. Régalez-vous. Vous touchez au but. C'est le moment de joie. Vous pouvez vous imaginer en balade dans les carrières d'ocre de Roussillon ou dans le désert du Sahara. Vous prenez pour un artiste peintre. Vous retrouvez l'archaïsme des peintures rupestres. Vous sentez le goût du soleil et de l'eau fraîche qui creuse un sillon dans les jardins d'un oasis. Maintenant, maintenez le tout dans un frigo. Quelques temps, quelques heures. Oh, pas très longtemps, le temps que ça marine, le temps qu'il faut. Et je me souviens d'une petite phrase que j'ai lue dans la salle d'attente du cabinet de Stéphanie Dumas quand je suis allé la voir. Cette petite phrase dit « Prends du temps pour t'arrêter, regarder de façon à ne rien perdre » et à pouvoir tout apprécier. Et j'ai envie de vous inviter à prendre le temps maintenant d'écouter une musique de Monsieur Joël Greer, d'un disque qui s'appelle Paris, Istanbul, Shanghai, et le morceau s'appelle Niaven. Voilà, l'instrument que vous entendez, c'est un violon chinois à deux cordes qui s'appelle un erbu. Je trouve que ça fait un peu comme la voix d'un ange qui nous dirait « Hey, vas-y, tout doux, je suis là, ne t'inquiète pas ». Voilà les amis, merci à vous pour votre écoute, merci à Louis pour la technique et la production et merci bien sûr à Stéphanie Dumas pour sa chouette présence parmi nous. Et le titre du morceau de tout à l'heure, c'était « Jockey Full of Boredom ». Voilà, je ne parle pas très bien anglais, mais ce n'est pas grave. À très bientôt, salut à tous. C'était Autour de la table, une émission présentée par Vincent. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.